Radio Django, la rose des vents.
Bonsoir Daniel.
Bonsoir Fabien.
Ce soir dans la rose des vents, nous parlerons de l'Inde, notamment de la place des femmes dans la société indienne. Le 18 mai dernier, la Maison de la Femme à Lausanne organisait une conférence sur ce sujet avec Daniel Feller-Konus, chargé de cours de sanskrit et de... oui, mais rigole pas, c'est pas trop. Comment on prononce ?
Sanskrit.
Sanskrit, voilà. Donc, elle est Daniel Feller-Konus, chargé de cours de sanskrit et de religion indienne à l'Université de Lausanne, ainsi que membre du comité de festival Ciné Masala. Et Daniel, tu y étais. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Daniel, est-ce que tu pourrais brièvement nous rappeler ce qu'est le Ciné Masala ?
Alors, c'est un festival basé sur des conférences et des projections de films organisées par des jeunes chercheurs et chercheuses de l'Université de Lausanne, travaillant sur l'histoire, les langues et les religions de l'Asie du Sud-Est. Le dernier festival de 2016 porte justement sur la situation des femmes en Inde, confrontées à diverses problématiques liées à des questions de genre et culturelles.
Mais pourtant, des lois existent hein, en Inde en faveur de l'égalité hommes-femmes, si je me souviens bien, et les femmes jouent un rôle incontestable sur la scène politique indienne.
En effet, sur le papier, la constitution indienne garantit l'égalité hommes-femmes comme l'égalité des chances, mais en pratique, le taux d'alphabétisation des femmes est d'environ 65% contre 82% pour les hommes, et seuls 6% des femmes suivent des études supérieures, et seulement 29% des femmes travaillent. Qui plus est, même si des femmes ont marqué la vie politique de l'Inde, comme Indira Gandhi et d'autres, cette présence relative des femmes en politique n'a pas d'incidence réelle sur la situation des femmes en Inde.
Et la situation sociale des femmes en Inde, malgré un réveil féministe en 2012, semble rester malgré tout relativement fragile. Écoutons à ce sujet Daniel Feller, invité par la Maison de la Femme à Lausanne jeudi dernier. Daniel, tu lui demandes tout d'abord ce qui l'avait conduit à se pencher sur le statut de la femme en Inde et dans quel contexte ?
Alors tout d'abord, c'est parti d'un festival qu'on a organisé l'année passée à notre section. En fait, c'est le festival Ciné Masala, dont le but est justement de montrer des films indiens à un public plus large. Et la thématique qu'on a abordée l'année passée, c'était justement la femme en Inde. Et donc, à ce moment-là, on a visionné énormément de documentaires sur les femmes indiennes, de films aussi. Et de là est ensuite venue la demande de la Maison de la Femme de présenter un sujet là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai présenté donc une conférence sur ce thème.
Autour des femmes. Mais par rapport à votre histoire en Inde, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui vous aurait conduit à vous positionner par rapport au statut de la femme ?
Alors c'est sûr, j'ai vécu en Inde pendant 7 ans et j'ai moi-même vécu des choses. Et effectivement, ça ne peut pas nous laisser indifférents ensuite. Donc, par rapport à ça, j'ai aussi souhaité m'exprimer là-dessus pour qu'en fait, tout le monde soit au courant de ce qui se passe dans certaines parties du monde qu'on ne connaît pas forcément.
Chargé de cours à l'UNIL, vous enseignez notamment le sanskrit.
Oui.
Et vous êtes une spécialiste, avec des guillemets, des lois dites de Manu.
Oui, je ne suis pas vraiment une spécialiste des lois de Manu. On peut dire peut-être que je suis spécialiste, mais le mot est bien grand, de l'Inde ancienne, dont évidemment les lois de Manu et les autres traités de lois sont un phénomène littéraire très important qui reflète cette tradition-là.
Que disent certaines de ces lois sur la posture de la femme dans la société indienne ?
Alors, elles disent des choses contradictoires. Hein. Certaines disent que la femme doit être vénérée, respectée, mais un beaucoup plus grand nombre de ces versets, en fait, disent que clairement, déjà, la place de la femme, elle est à la maison. La place de la femme, c'est avant tout de s'occuper de son mari, de vénérer son mari comme un dieu. Pas besoin d'autres divinités, vénérer le mari suffit pour avoir une bonne renaissance et aller au paradis. Et dit surtout que la femme doit être constamment surveillée parce qu'elle est de nature excessivement, disons, portée sur la chose, on pourrait dire, est très légère et versatile. Et donc elle doit toujours être sous la surveillance d'un homme de sa famille.
Mais aujourd'hui, est-ce que ces lois ne sont-elles pas en contradiction avec les nouvelles lois qui sont appliquées en Inde, qui défendent l'égalité du genre ?
Bien entendu, donc l'Inde moderne a des lois qui sont tout à fait égalitaires en matière de genre, mais ce qu'on constate, c'est que le poids de la tradition est encore tel, et j'entends le lavage de cerveau culturel qui a été subi par les femmes pendant des millénaires a encore un tel poids que souvent, en fait, les lois de la Constitution ne font pas le poids par rapport aux coutumes.
Quel est le poids des femmes dans la société indienne, ces femmes qui ont fait des études ? Est-ce qu'elles ont la possibilité de faire changer les mentalités ?
Certainement, et certaines le font. Hein, je pense, par exemple, par leurs écrits, en étant journaliste, en écrivant des livres. Mais ce qu'il faut aussi voir, c'est que beaucoup de femmes, en fait, qui participent à des mouvements qui visent, en fait, à libérer les femmes, ne viennent pas de la haute société, mais c'est un peu ce qu'on appelle les grassroots movements, c'est les mouvements qui viennent du bas. Donc ce sont des femmes aussi souvent de basse caste qui ont elles-mêmes subi en fait le système et qui à un moment donné se révoltent contre le système.
Mais on parle aussi des missing women. De quoi s'agit-il ?
Alors les missing women, donc c'est une idée, ou enfin un concept ou un constat peut-être, qui a été mis en lumière par l'économiste Amartya Sen déjà dans les années 90. Donc Amartya Sen, qui a gagné le prix Nobel d'économie en 98, met en lumière que dans certains pays du monde, notamment l'Inde, le Pakistan, la Chine, la Corée du Sud, il y a des femmes qui manquent, c'est-à-dire des femmes qui ne viennent simplement jamais au monde à cause d'un système qui favorise les garçons. Et donc, soit il y a des infanticides, des jeunes bébés filles qui naissent, ou plus souvent, de nos jours, des avortements sélectifs quand on sait que le fœtus est une fille.
Et comment est-ce que réagissent les femmes au niveau de la société ? Est-ce qu'il y a des réactions assez violentes contre ces mesures ?
Alors, bien entendu, il y a des réactions excessivement violentes. Les femmes ne sont pas d'accord, les femmes subissent ça dans leur corps, donc c'est pour une mère, c'est évidemment terrible d'être forcée à avorter par sa belle-famille, par son mari. Il y a aussi la loi, évidemment, qui interdit ces pratiques-là. Dans les faits, c'est très difficile de le contrôler, parce qu'il est interdit, par exemple, de procéder à une échographie pour déterminer le sexe du bébé. Mais ça se fait et la loi, en fait, n'est pas appliquée. Donc, mais les mentalités évoluent très lentement parce qu'il y a un tel poids économique qui fait le contrepoids de la balance par rapport à cette pratique. Je pense notamment au système de la dot, qui est très contraignant pour les familles qui ont beaucoup de filles, que si la dot n'est pas éliminée, eh bien, cette situation va perdurer.
Qu'est-ce qui pourrait justifier ce regard de l'homme sur la femme ? Est-ce que c'est pour des raisons historiques, culturelles ou plutôt économiques quand on parle de la dot ?
Je pense que c'est plutôt en fait économique. En fait, l'origine de la dot n'est pas claire, très très claire. Donc c'est une pratique surtout hindoue, même si en fait les musulmans la pratiquent aussi en Asie du Sud. Mais si on lit, pour revenir aux lois de Manu dont on parlait tout à l'heure, déjà, bon, Manu parle très clairement contre l'avortement. Donc l'avortement est un crime qui est puni par les lois des hommes, mais aussi les lois divines. Donc si on avorte, on va en enfer, etc. Donc ça, c'est très clair. Et aussi, par rapport à la dot, Manu n'est pas extrêmement clair. Donc c'est pas préconisé déjà dans l'Inde ancienne. Et donc c'est une coutume plus récente, en fait, dont les origines ne sont pas entièrement connues.
Dans les universités indiennes, est-ce qu'on sensibilise les femmes à la question du genre ?
Difficile question. Je pense que certaines universités sont plus progressistes que d'autres. Certainement, par exemple, je pense à la JNU, donc la Jawaharlal Nehru University à Delhi, qui a toute une tradition justement d'études de genre, aussi de lutte pour le droit des femmes. Mais certaines universités sont très provinciales et ne sont pas du tout axées, disons, études de genre ou portées pour étudier ces problématiques-là.
Une investigation et une rencontre proposées par Daniel pour La Rose des Vents. Merci, un sujet à réécouter sur notre site www.django.fm.